Je rappelle que sous le titre « Les fondements de la foi », nous nous sommes engagés dans une série de leçons sur des vérités premières et souvent aussi dernières de ce que l'Écriture nous révèle du Seigneur et de sa volonté et de son œuvre pour nous, que nous avons jusqu'à présent traité dans une première séance de Dieu, sa révélation, de la révélation comme telle dans une deuxième séance, de la création et de ses avaries la dernière fois, et qu'aujourd'hui, le sujet annoncé, c'est la loi de Dieu. J'ai encore dans la série 6 autres sujets, je pense peut-être un 7e, donc nous en avons encore pour un certain nombre de mois, comme vous allez vous en rendre compte. Mais aujourd'hui, donc, c'est le sujet de la loi de Dieu que nous allons traiter ensemble, sur lequel nous allons recueillir les instructions de l'Écriture. Comme d'habitude, nous ferons une lecture introductive, et j'ai pensé à la deuxième partie du psaume 19. C'est une évocation de tout ce que la loi de Dieu représente pour le croyant, pour David, qui semble-t-il a composé ce psaume, et pour nous tous, qui croyons comme lui. J'ai hésité quant à la traduction à choisir et finalement j'ai opté pour celle de Calvin. Dans son commentaire sur les psaumes, je trouve que la traduction que Calvin propose, qu'il avait lui-même réalisée, est particulièrement réussie, elle est très exacte et elle est encore compréhensible au XXIe siècle. Donc je me suis dit, je vais lire la traduction que Jean Calvin au XVIe siècle a proposée. Alors j'espère que personne ne butera sur l'usage de quelques mots que nous n'utilisons plus guère. Isseux, ça veut dire simplement eux. En isseux, ça veut dire en eux. Ou éventuellement ceux-là. Et le mot loyer veut dire de manière beaucoup plus large que le sens qu'il a pris de nos jours. Le mot loyer veut dire récompense, salaire, mais surtout récompense, plus largement. Après que j'aurai lu donc la deuxième partie du psaume 19, selon la traduction de Calvin, du verset 7 au verset 14, je demanderai à l'un des visiteurs aussi, que nous sommes très heureux de saluer, le pasteur Daniel Bandreuil, qui est ici avec madame, je demanderai qu'il nous conduise dans la prière pour que le Seigneur nous assiste pendant l'heure qui commence. Mais nous lisons d'abord donc le psaume 19, deuxième partie, selon la traduction de Calvin. La loi du Seigneur est entière, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est fidèle, instruisant en sapience le petit. Sapience, sagesse. Les statuts de l'Éternel sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est nette, permanente à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vérité, justifiés ensemble. Désirable par-dessus l'or et beaucoup de finor, et doux par-dessus le miel et ce qui distille des raies du miel. Aussi ton serviteur, paresseux, est rendu avisé, et en l'observation d'isseux, il y a grand loyer. Qui est celui qui connaîtra ses fautes? Nettoie-moi de mes péchés cachés. Aussi, détourne des arrogances ton serviteur, afin qu'elles ne dominent sur moi. Alors je serai entier et net de beaucoup de forfaits. Les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur soient au bon plaisir devant toi, Seigneur, ma force et mon rédempteur. Prions ensemble. Le thème de la loi tient une grande place dans l'Écriture. Dans une traduction ordinaire, il revient plus de 400 fois, avec deux termes bien sûr distincts, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en hébreu et en grec. 400 fois, c'est une indication de la fréquence avec laquelle les auteurs inspirés reviennent sur ce sujet. Et je ne compte pas tous les synonymes Nous avons lu dans le psaume 19 tout un passage sur la loi. Le mot loi est prononcé une fois, mais il y a 5 ou 6 synonymes qui suivent. Si l'on comptait tous les synonymes aussi, on atteindrait des chiffres presque astronomiques. La loi, c'est un sujet d'importance vitale, si l'on en juge, à la place que ce sujet tient dans la Bible elle-même. Et pourtant, il me semble que le sujet n'est pas très populaire dans la plupart des églises aujourd'hui, et qu'il y a comme une gêne parfois parmi les chrétiens à son propos. J'en vois au moins 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a quand même comme une apparence de contradiction dans ce que nous lisons au sujet de la loi. Nous entendons le Seigneur Jésus lui-même ouvrant son ministère par le grand discours sur la montagne, comme on l'appelle, qui déploie de manière systématique les grands thèmes qu'il veut aborder, et il déclare formellement « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et il avertit que celui qui enseignera aux hommes, ou qu'il fera lui-même, réduire l'autorité du plus petit commandement, sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Jésus souligne l'autorité de la loi. Et pourtant, nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul des versets bien connus, au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, par exemple, au verset 14, que nous sommes esclaves du péché tant que nous sommes sous la loi. Et il affirme comme une très bonne nouvelle que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et au chapitre 7, il parle des passions provoquées par la loi dans nos membres et qui constituent comme un esclavage. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 56, dans les paroles qui résument en quelque sorte la conclusion qu'il veut donner à sa grande discussion du sujet de la résurrection, il dit la puissance, l'aiguillon, plus exactement, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Là, nous comprenons facilement ce qui rend vraiment la mort mortelle, c'est le péché. Une fois que le péché est vaincu, la mort a perdu son aiguillon et elle peut même être considérée comme un gain, car vivre, c'est Christ. Et la mort, c'est rejoindre le Christ sans aucune barrière, sans aucune distance. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, nous comprenons facilement. Mais Paul ajoute, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors la loi serait-elle du côté négatif? Oui. Je crois que la présence de ces versets, qu'il n'est pas si facile d'emblée de concilier, crée du trouble dans l'esprit de certains. Et puis plus largement, je crois qu'on peut dire que pour beaucoup aujourd'hui, le mot « loi » a des résonances un peu désagréable. On opposera facilement la loi et la miséricorde, la loi et la vie. Ce qui dit loi fait penser aux contraintes, aux rigidités. On dit la dure loi, c'est la loi, mais la dure loi. Et même ceux qui voient qu'il est inévitable d'avoir des lois les considèrent guère que comme des mots dont on ne peut malheureusement pas se passer. Il y a, de manière assez générale, je crois, une aversion pour la notion de loi qui contraste avec les paroles du psaume 19 et de tant d'autres passages. Alors il s'agit pour nous d'y voir un peu plus clair aujourd'hui, de nous mettre dans la perspective qui est celle de la Bible elle-même à ce propos. J'ai 3 points principaux. Ce ne sera pas forcément chaque fois un élément d'exposé de la même longueur, mais j'ai 3 points principaux que je vais développer. Le sens de la loi. Qu'est-ce que la loi? L'usage de la loi et ce que j'ai appelé le déploiement de la loi. Le contenu, mais tel qu'on peut le déployer avec les réalités dont la Bible parle et qui sont très liées à la loi. Donc d'abord, le sens de la loi. Une part, pas une part énorme, mais une part quand même, des difficultés au moins psychologique que certains éprouvent lorsque on met l'accent sur la loi vient de ce que le mot loi dans son usage français et avec l'héritage du latin, le mot loi vient du latin, n'a quand même pas tout à fait le même sens et le retentissement n'est pas tout à fait le même que les termes que la Bible emploie. Il y a un petit décalage qu'il est très intéressant de relever. Le mot loi dans l'Ancien Testament, c'est un mot que vous avez certainement entendu prononcer souvent, le mot de Torah. La loi, dans nos traductions, c'est Torah dans l'original. Comme le terme s'emploie aussi, tout spécialement pour les 5 premiers livres de la Bible, les Juifs disent la Torah, vous voyez, pour dire la Bible. Mais c'est le mot loi, c'est le mot loi. Mais justement pas avec ces connotations que nous associons le plus spontanément ou en première ligne au mot loi. Le mot Torah veut d'abord dire l'instruction. Et le verbe est employé dans des formes correspondantes, c'est un mot qui procède d'un verbe, pour dire enseigner. Un instructeur, vous avez un mot qui est voisin de ce mot de Torah, le moré, c'est l'instructeur. Donc vous avez une autre nuance. La racine vient d'un verbe qui signifie jeter. Une fois seulement, c'est vrai, mais quand même une fois, dans le livre de Job au chapitre 38, verset 6, il est utilisé pour des fondations jetées, pour la pierre fondamentale jetée. Nous employons aussi le verbe jeter pour les fondations. Et ça me paraît assez intéressant. Et je suis porté à suggérer le petit schéma suivant, la loi. Torah est d'abord la fondation sûre. Et cela correspond tout à fait d'ailleurs à l'usage par Jésus lui-même, à la fin du sermon sur la montagne, de l'image de la fondation. Ceux qui fondent sur le sable, le désastre, inévitablement détruira leur œuvre un jour, mais ceux qui fondent sur les paroles du Seigneur, sur la loi de Dieu, ils fondent sur un fondement solide et ils ne seront pas déçus. Ce qui me plaît tout spécialement avec cette image des fondations jetées comme rôle de la Torah, bon, même si c'est juste une seule fois que le verbe est employé avec cette signification-là, c'est qu'on retrouve l'étymologie du mot instruction en français. Instruction, c'est le mot voisin de construction. Qu'est-ce que c'est que instruire? C'est construire de l'intérieur, in. C'est précisément la loi, enseigner, qui structure la personne, qui permet que ce soit pas n'importe quoi qui se déforme au gré des circonstances, qu'il y ait des piliers, qu'il y ait du solide, qui tienne. Et qui tiennent sous l'adversité. Le mot instruction en français nous permet de rappeler en quelque sorte cette même image. Et puis, le mot donc duquel procède, semble-t-il, en hébreu le mot Torah, peut vouloir dire aussi jeter des flèches, jeter quelque chose qui indique une direction. Et la plupart des spécialistes diront que probablement le sens premier de Torah, c'est la directive. Ce qui indique la direction. Le Seigneur nous fournit en quelque sorte un panneau. Indicateur en fournissant sa Torah, sa loi. C'est le panneau qui indique la voie de la vie, qui indique la vraie vie, vie et vérité. Je continue à tout au honte vu à faire mes petits dessins. Oui. Qui se voit mieux? Ah oui, j'ai beaucoup de crayons, monsieur. Monsieur Valté m'a remis plusieurs crayons, alors. Vie et vérité. Voilà ce dont la loi de Dieu nous indique la direction, la directive fondamentale qui va nous guider dans la vie. Alors, ce sens étant le sens premier, je ne nie pas qu'il y ait aussi des composantes judiciaires. Et certains des synonymes ont référence à l'administration de la loi par le juge, à la condamnation selon la loi. Ce n'est pas quelque chose dont nous devions supposer que la Bible ne s'y intéresserait pas. La Bible, au contraire, s'intéresse fort à cette administration de la justice selon la loi. Mais c'est quand même pas le premier sens, et je crois qu'il est très utile de le rappeler. Quant au terme grec employé, il est aussi assez intéressant. C'est nomos, et de la même racine, savez-vous ce que veut dire nomos? C'est un pâturage. Il y a aussi nomé. Et cette proximité de sens s'interprète par le sens de la racine. Il s'agit de la répartition. Il s'agit de ce qui est assigné à l'un et à l'autre. Et pour qu'il n'y ait pas de dispute, le troupeau de l'un va aller brouter dans ce pré, et le troupeau de l'autre dans tel autre pré. La loi, c'est ce qui assigne à chacun sa place, qui met de l'ordre à nouveau dans ce qui serait autrement du fouillis, du chaos, et le chaos c'est mortel au bout du compte. Donc la loi, selon le mot grec qu'utilise le Nouveau Testament, c'est aussi une réalité dont d'emblée nous pouvons percevoir le rôle positif. Alors à partir de là, je pense que nous pouvons définir la loi de Dieu, nous intéressons ici à la loi de Dieu, comme l'expression de la volonté de Dieu pour guider les humains, pour leur montrer la voie et la place qui leur revient et qui est bonne pour eux. La loi définit le bien, ce qui a le droit d'être réalisé. La loi étant l'expression de la volonté de Dieu qui seul est bon, dit Jésus. Jésus dit au jeune homme riche qui emploie le mot bon un peu trop facilement, « Oh bon maître, qu'est-ce que je dois faire de bon ?» etc. Un seul est bon, hein? Est-ce que tu as réfléchi à la portée de ce seul terme? Un seul est radicalement bon. Il est le bien en personne, c'est Dieu. Et la loi définit le bien parce qu'elle reflète ce qu'est Dieu. Elle exprime ce qu'il veut. Ainsi, la loi est la définition du bien qui, comme tel, a autorité, joue le rôle de norme. Alors un point me semble encore à élucider sous ce premier grand point, quel est le sens de la loi, c'est le rapport à la liberté. S'il y a quelque chose que beaucoup de nos contemporains considèrent comme une sorte d'évidence, c'est que loi et liberté sont antagonistes. Certains diront, il faut bien des lois, la liberté doit être limitée, en particulier la liberté d'autrui fait que, il faut qu'il y ait une loi pour limiter la mienne. Mais ils considèrent que loi et liberté s'opposent foncièrement. Et je crois que la Bible nous enseigne le contraire. Que la loi de Dieu, cette fondation et directive pour la vie, est la source de la vraie liberté, ou en tout cas est le guide de la vraie liberté. L'idée que la liberté serait de faire n'importe quoi dont on a envie sur le champ, sans loi, sans règles, sans commandements, sans normes, sans directives à suivre, c'est l'illusion mortelle dans laquelle l'homme aveuglé par le dieu de ce siècle, le menteur, c'est l'illusion mortelle dans laquelle il se perd. Au contraire, si nous demeurons dans la parole seigneuriale, si nous marchons selon les directives du Seigneur, c'est alors que la vérité nous affranchit et que nous sommes réellement libres, comme Jésus l'a fait remarquer à ceux qui se prétendaient libres au chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean. La liberté, je fais ce qui me chante, sans tenir compte d'aucune loi, en fait, elle laisse l'être humain esclave, esclave de ce qui lui passe par la tête, esclave de ses pulsions, esclave de ses habitudes, dont pourtant souvent il enrage d'être enchaîné par elles. Mais il est un esclave, très concrètement, quiconque se livre au péché est esclave du péché, vous le savez bien, dit en quelque sorte Jésus. Et il est esclave des mensonges. les mensonges du menteur qui sont sur les ondes et sur les écrans tous les jours, ces vues faussées de la vie, ces échelles de valeurs truquées, c'est de cela que celui qui ne veut pas de la loi de Dieu est esclave. La loi de Dieu, voie de la vie, est le guide de la vraie liberté, qui correspond à la création même de l'homme, à ce qu'il est donc. Je crois que j'ai déjà employé l'image d'autrefois, là je fais pas de petit dessin, mais la notice du constructeur. Si vous achetez une machine à laver, et que vous n'avez aucune envie de tenir compte de la notice du constructeur, vous voulez faire n'importe quoi avec, je pense que vous connaîtrez quelques déboires. La notice du constructeur, elle permet d'être heureux dans l'usage de ce qu'il va proposer. De même, la loi, c'est la notice du constructeur, les directives pour l'utilisation de la vie humaine. Et si on les méprise, ces directives, on se fait mal. Donc, c'est une fausse liberté destructrice ce que les mensonges du monde font miroiter. Fausse liberté, c'est la loi de Dieu qui est source d'une vraie liberté, liberté de créature, mais de créature privilégiée qui est dans une relation de confiance et de communion avec son créateur. Les presses bibliques universitaires ont publié un petit livre il y a un certain nombre d'années sur le décalogue, sur les 10 commandements, comme on les appelle. Le cœur de la loi de l'Ancien Testament. Et ils l'ont intitulé 10 fois libre. Et je trouve que c'est excellent. Et oui, les 10 commandements sont 10 formulations de la liberté. Comment être libre à l'égard de ces pulsions qui détruisent la vie humaine, le mensonge, comment être libre à l'égard de la convoitise, voilà, c'est formulé. Le Seigneur dit, voilà ce que tu feras, il ne fera pas. Là, c'est le premier grand point qu'il fallait aborder, le sens du mot loi. Maintenant, l'usage de la loi. Il y a une présentation classique, qui se trouve chez Calvin aussi, et chez beaucoup d'autres. 3 usages de la loi, a-t-on dit. L'usage pédagogique, mais il faut comprendre, pédagogique dans un sens très spécial, dans le sens où Paul dit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Galates que la loi est un pédagogue pour nous conduire au Christ. Le rôle pédagogique de la loi, c'est de nous conduire au Christ. L'usage politique, l'usage pour régler les relations des hommes entre eux, même si leur cœur n'est pas régénéré. Et troisièmement, l'usage didactique, c'est-à-dire l'usage d'enseignement. Alors je vais exposer brièvement ces 3 usages, mais sans retenir tellement les noms classiques que je viens de vous donner. Je commence par le deuxième. Je dirais que le deuxième, c'est la loi garde-fou. Là, sur un espace où vous pouvez vous tenir assez à l'aise, mais il y a un précipice derrière. C'est un horrible gouffre. Et vous avez une rambarde, vous avez un garde-fou, très bien nommé. Et les parents qui sont avec des enfants, ils savent à quel point les garde-fous sont précieux et utiles. La loi, ça c'est le deuxième usage, l'usage qu'on dit politique. C'est un garde-fou. La loi implique un certain nombre de prescriptions qui feront que entre les hommes, ça ne va pas dégénérer de manière trop catastrophique et que l'histoire humaine va pouvoir continuer encore un petit peu. C'est la loi, sans changer le cœur, qui limite quand même les effets du désordre humain, et c'est un usage qui est intéressant. Alors Dieu avait donné sa loi au peuple d'Israël comme une constitution politique. C'était lié à l'élection particulière d'Israël pour le temps de la préparation de la venue de Jésus-Christ. Mais les législations des nations sont souvent quand même, sur quelques points, un reflet de cette loi. Selon que Dieu, avant de parler à Moïse, avait inscrit cette loi dans le cœur des hommes, dans leur intelligence, dans toutes les nations, il y a des reflets plus ou moins déformés de ce qui est quand même la loi de Dieu, Et c'est ce qui limite la dégradation et l'autodestruction qui sont les conséquences du péché dans les sociétés humaines. Ça, c'est la loi garde-fou. Et entre parenthèses, ça peut nous être utile à nous aussi encore. Vous avez la fameuse parole, la crainte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Sur les routes, le code de la route, la loi, les limitations de vitesse, je pense que les chrétiens, oui, ils font assez bien d'en tirer profit, de respecter, et cela joue pour eux. Bon, c'est l'usage de la loi. Deuxième usage dans ma présentation, mais c'est celui qu'on appelle le premier habituellement, l'usage dit pédagogique. Je le représenterai par un miroir. Miroir, mon beau miroir, hein? Comment est-ce que je suis? C'est pas très beau. Miroir, mon beau miroir, mon miroir fidèle, qui est la loi de Dieu, tu montres que je ne suis pas ce que je devrais être. Tu montres que je suis spirituellement, moralement laid, et tellement laid que je ne peux pas me présenter à la lumière du Dieu saint et bon. La loi révèle la laideur du péché, révèle avec quelle profondeur et quelle virulence le péché s'attaque à la vie humaine et avilit ce que Dieu avait créé. Et c'est ainsi que la loi est pédagogue pour conduire au Christ. Parce qu'elle fait comprendre enfin à l'homme qu'il est incapable de se sauver lui-même, que le cas est vraiment désespéré. La loi, dans son usage pédagogique, montre que la maladie est incurable par les ressources humaines. Elle montre que nous devons désespérer de nous-mêmes. Alors comment est-ce que cela nous conduit à Christ? Justement, en détournant le regard de nous-mêmes, en nous faisant enfin abandonner nos pauvres subterfuges, tous nos trucs par lesquels nous essayons de nous rassurer et où nous imaginons que nous pourrons être alors agréés de Dieu. La loi nous conduit au Christ en nous montrant qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui qui peut vraiment nous sauver. C'est là le rôle pédagogique que joue la loi de Dieu. Le miroir de vérité, mais qui nous fait enfin prendre conscience de ce que nous sommes. J'emploie le mot de désespoir. Savez-vous comment Martin Luther définissait la foi? Désespoir consolé. La foi, c'est le désespoir, lorsque nous regardons à nous-mêmes, mais qui ne se fige pas en soi, qui alors se laisse attirer par la générosité de Dieu, se laisse consoler par Dieu en Jésus-Christ. C'est l'usage, donc le deuxième usage. Et là aussi, cela joue encore dans la vie chrétienne, parce que nous sommes toujours susceptibles de retomber dans cette vieille idiotie, comme quoi nous pourrions, parce que nous faisons ce que nous sommes, quand même être agréés de Dieu. Que ça pourrait, bien sûr, pour être pardonné d'abord, là c'était Jésus, nous disons-nous. Mais maintenant, pour être quand même considéré comme un bon chrétien par Dieu, ce sont mes efforts. C'est tout ce que je fais. Et c'est un piège mortel. Et la loi de Dieu comme miroir nous ramène à la lucidité à cet égard. Même nos œuvres de chrétiens les plus recommandables et celles pour lesquelles tout le monde applaudira, toutes nos œuvres de justice sont, selon la parole du prophète Ésaïe, des vêtements sales, horriblement sales aux yeux de Dieu. nos actes de justice, pas nos injustices, de justice, dit-il, sont comme du linge horriblement souillé. Donc, il faut toujours nous rappeler ça, c'est uniquement, uniquement revêtu de Jésus-Christ, par sa grâce que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Et sachant cela, alors nous faisons tout notre possible pour lui plaire et produire des œuvres qu'il accueille dans sa bienveillance, en couvrant tout ce qui est négatif en elle. Mais nous ne pouvons tenir, nous ne pouvons accéder jusqu'à lui que par sa grâce. Et c'est ce que nous rappelle donc le deuxième usage de la loi. Puis le troisième, alors, c'est l'usage qui correspond au panneau indicateur. On pourrait aussi dessiner une boussole. C'est l'usage selon lequel la loi dit ce qui est bien, ce qui est la voie de la vie, et donc le croyant est invité à s'en servir pour marcher droit, marcher dans le sens qui est juste. Voilà les trois usages fondamentalement, et à partir de là, je crois qu'on peut résumer les étapes clés en ce qui concerne la place de la loi, et du coup, voir comment se concilient les paroles en apparence contradictoires qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Matthieu 5 et Romains 5, hein, puisque j'ai cité ces textes. Au premier stade, la création, Éden, la loi, c'est l'expression du bien que Dieu veut, qui exprime ce qu'il est et qu'il veut que sa créature en son image soit, puisqu'elle est là pour le refléter. C'est l'expression du bien que Dieu veut, qui est la voie de la vie. À ce stade, la loi de Dieu, qu'il inscrit dans le cœur même de l'homme, n'est pas du tout un joug pesant, n'est pas du tout quelque chose de pénible, c'est la voie de la vie. L'homme est dans l'harmonie avec Dieu, et c'est la formule de cette harmonie. Oui. Ça, c'est le premier stade, et je pense qu'on peut dire que Jésus a vécu selon ce premier stade. Jésus, sans péché, dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Jésus accomplit la loi avec une parfaite aisance et joie, jubilation. Mais le péché s'introduit, deuxième stade. Le péché s'introduit, et à partir du moment où le péché s'introduit, la loi devient le moyen de définir le péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit très très clairement. C'est par le péché, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, parce qu'on ne peut pas la définir. Qu'est-ce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est résumée par la loi. Donc le péché, c'est la violation de la loi. Et du coup, la loi apparaît comme l'instance du jugement par rapport au péché et par rapport au pécheur. La loi devient l'instance de condamnation, tout logiquement, à partir du moment où le péché s'introduit, qui est contraire à cette formule du bien. Alors, à partir de là, le mot « loi » vient à désigner, dans l'usage de l'écriture, le régime de ceux qui, ayant reçu le commandement de Dieu, ayant reçu la loi de Dieu, l'ont transgressé, et vivent dans la faute. Ils sont sous la loi. La loi est en quelque sorte le régime de la responsabilité, régime logique de la responsabilité. Il y a une loi, si tu obéis c'est ok, si tu désobéis, ça te retombe sur le nez. Il y a des conséquences. Et la conséquence ultime, c'est la mort. C'est ça le régime de la loi. Et l'humanité s'y trouve, depuis le commencement, le péché étant intervenu, elle est sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation. Oui. Cela vaut pour toute l'humanité, souligne l'apôtre Paul dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, et ça vaut encore spécialement des Juifs qui en restent là. Car dans la loi de Moïse, c'est un élément de la loi de Moïse, Dieu reprend ce régime, celui qui fera ces choses vivra par elles. Pour avoir la vie, il faut obéir intégralement, parce que Dieu est un Dieu d'absolu, donc, mais alors personne n'y arrive. Voyez. Le régime de la loi apparaît comme un régime oppressant et désespérant, parce que précisément c'est le régime logique de la responsabilité pour ceux qui sont sous le commandement et ne réussissent pas à lui obéir. Et même, souligne l'apôtre Paul, ce régime fait que le péché est excité. Il allume des passions dans les membres. Il explique très bien dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains comment ça marche. Le péché, il est là, mais en quelque sorte, il est à moitié endormi, hein, nous. On vit un peu insouciant. Arrive la loi. Tu ne convoiteras pas. Eh bien, d'un coup, j'ai envie de convoiter. D'un coup, ça excite le mauvais désir. Pourquoi ? Est-ce que la loi est mauvaise ? Non, non, dit Paul. La loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Mais le péché saisit cette occasion. Il se montre en quelque sorte. La prétention du péché, que je suis mon propre maître, elle peut rester cachée comme ça, dans le train-train. Mais devant la loi de Dieu, elle ressort, elle s'excite. C'est pour ça que la loi excite. Et la puissance du péché, c'est la loi, ça va encore plus loin. La seule façon pour nous de recevoir la force d'obéir au commandement, ce serait d'être en communion avec Dieu. Mais la loi est là pour dire non. C'est un criminel, il doit être condamné. La loi de Dieu, si Dieu veut être conséquent, veut être d'accord avec sa propre justice et sa sainteté, Dieu doit condamner, et donc la puissance du péché, ce par quoi il exerce sa tyrannie sur nous, c'est la loi. Donc à ce deuxième stade, le régime de la loi, c'est tous les passages que nous avons évoqués trouvent leur sens. Oui. Alors comme nous l'avons vu, dans l'intention divine, et c'est le cas dans ce qu'il a établi par Moïse, Dieu veut que cela conduise l'homme à désespérer de lui-même, à ne pas s'imaginer c'est le légalisme qui va y réussir quand même, et à se tourner vers la pure grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. L'usage de ce régime, c'est, dans l'intention de Dieu, l'usage pédagogique pour détourner de soi et pour conduire à Jésus-Christ lui-même. Et dans la loi de Moïse, vous n'avez pas que cette reprise du régime de la loi, qui finalement n'aboutit qu'à la condamnation, vous avez aussi l'annonce de ce que Dieu va faire par Jésus-Christ, et déjà l'offre par avance à ceux qui croient d'avance du pardon des péchés au nom de Jésus. Vous avez ces deux éléments dans la loi. C'est pour ça que vous avez des formules qui sont un peu étonnantes. Il faut savoir les loger. Dans la loi de Moïse, vous avez d'une part le rappel, sous la loi, c'est la condamnation pour celui qui a désobéi, et d'autre part, l'annonce, mais Dieu a autre chose dans sa bonté, si vous vous tournez vers lui. Voyez. C'est aussi dans la loi de Moïse, par certaines paroles et par toutes les figures, toutes les images qui annoncent Jésus-Christ. Toutes les figures qui annoncent Jésus-Christ, les sacrifices animaux en particulier, qui étaient incapables en eux-mêmes d'enlever les péchés, mais ils étaient là pour annoncer l'œuvre que Dieu allait accomplir en Jésus-Christ, et pour que déjà les Israélites mettent leur foi en celui qui devait venir, et qu'ils reçoivent par avance le pardon de leurs péchés, la vie nouvelle, à partir de son œuvre. Et c'est pourquoi vous avez le psaume 32, par exemple, qui célèbre la libération du péché. David, au psaume 32, connaît la justification par la foi. Il affirme le bonheur de l'homme dont le péché est effacé, dont l'iniquité est expiée. Et simplement parce qu'il a confessé sa faute, il a reçu ce que Dieu donne. Tu as pardonné la faute de mon péché. Vous voyez comment ces éléments se situent. Nous ne sommes plus sous la loi comme ce régime qui est la logique de la responsabilité, parce que Dieu est intervenu, qu'il a réglé lui-même toutes les exigences de la loi, qui sont celles de sa propre justice, par Jésus-Christ. Nous reverrons cela dans une prochaine leçon plus en détail. Et du coup, nous ne sommes plus sous la loi, mais dans un régime nouveau. Mais un régime nouveau où la loi garde son rôle de poteau indicateur. Bien entendu, puisque maintenant nous sommes libérés de la condamnation qui pesait sur nous, dans la reconnaissance envers ce Dieu si généreux, nous allons faire tous nos efforts pour lui plaire, pour vivre selon sa volonté. Oui. Et donc le troisième usage de la loi, il est bien pour nous. C'est la voie de la vie. C'est l'ordonnance du souverain médecin qui nous montre comment être en bonne santé spirituellement. Vous voyez, le mot ordonnance correspond très bien là aussi. Oui. Voilà comment les choses se mettent en place. Alors, encore quelques indications sur le déploiement de la loi. La volonté de Dieu est à la fois une et diversifiée. Alors vous avez des résumés plus ou moins brefs. Le résumé des résumés, ce serait « tu aimeras ». Tu aimeras. L'amour est le contenu central de la loi. Et saint Augustin est très réputé pour avoir dit « aime et fais ce que voudras ». Oui. Si quelqu'un aime, mais aime authentiquement, il est sûr d'être dans la volonté de Dieu, car Dieu est amour. Jésus, cependant, a résumé de manière juste un tout petit peu plus détaillée, je crois que nous en avons grand besoin, avec une dualité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Une grande dualité, amour de Dieu, amour du prochain, et il est classique de considérer que les deux tables de la loi, dans ce résumé un peu plus détaillé, qui est le décalogue, au chapitre 20 de l'Exode et au chapitre 5 du Deutéronome, que ces deux tables de la loi correspondent aux deux grands commandements. Certains en ont douté, hein, et donc je ne prétends pas que ce soit une vérité sans contestation possible. Certains ont dit les deux tables, c'est les deux exemplaires. L'un pour Dieu, l'autre pour le peuple, dans l'arche. Mais, en général en tout cas, et ça tombe en tout cas très bien, on interprète les deux tables de la loi pour correspondre à Dieu et au prochain. Vous avez l'amour de Dieu, pas d'autre Dieu, pas d'image qui fasse écran et qui lui retire de sa gloire, le respect du nom de Dieu, le respect du jour de Dieu qu'il a mis à part, et donc de telle sorte que le culte puisse lui être rendu effectivement. Et puis, sans doute, le cinquième commandement, on pourrait le loger dans la deuxième table, mais il est sans doute dans la première. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Ils sont à la charnière, pourrait-on dire. Là, je ne dessine pas une charnière entre les deux tables de la loi, mais à la charnière des deux tables, car le père et la mère sont l'image de Dieu. Il est le père et il a créé toute paternité à partir de lui-même, comme une image de lui-même. Et c'est pour ça que l'honneur au père et à la mère est inscrit dans les commandements, le premier. Et le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Il souligne, c'est le commandement qui est donné avec la promesse d'une vie heureuse, la voie de la vie, une vie pleine selon Dieu. Parce que père et mère représentent Dieu. C'est une fonction de représentation. Et puis alors vient ensuite la deuxième série, les commandements sur le prochain, respecter la vie du prochain, respecter le mariage du prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est le bien le plus précieux avec la vie. Et puis, tu ne dérogeras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, la réputation, réputation en justice en particulier. Et puis alors, le dixième commandement qui regroupe tous les autres, qui va jusqu'au ressort intérieur de la conduite, tu ne convoiteras pas. Mais dans tous ces cas, il s'agit d'expliciter ce que veut dire tu aimeras. Tu aimeras en pensant en particulier à tous ces biens à respecter du côté de ton prochain. Ici, encore une petite note qui me semble utile. Le rapport amour et commandement. Comme le rapport avec la liberté, le rapport avec l'amour est souvent très mal compris aujourd'hui. Et vous avez des tas de gens qui disent, si c'est commandé, c'est pas être de l'amour. Et l'amour ne se commande pas. Scrutez votre Bible, cherchez, vous verrez que cette opposition amour, loi ou commandement, ne se trouve nulle part dans toute la Bible, et qu'au contraire, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, le contenu du commandement, c'est aimer, l'amour et les commandements sont constamment ensemble. Alors pourquoi les gens, à ce point, se méprennent-ils? D'une part parce qu'il y a une idée de l'amour, qui est une idée trop romantique, qui est trop interprétée comme l'effervescence des sentiments, alors que dans la Bible, c'est bien plus un comportement concret, les choix qu'on fait. C'est sûr. Mais je pense que ça va encore plus profond. Pourquoi est-ce que nous opposons l'obligation, la loi, à l'amour? Parce qu'au fond, il y a en nous cette vieille révolte du premier péché. Je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Aimer, ça peut me plaire. Alors oui, je rêve d'aimer et d'être aimé. Mais lorsqu'il y a commandement, alors là, je regimbe, je ne suis pas content. Mais si c'est le bien même, si c'est Dieu qui a tout droit sur nous, qui nous dit de faire quelque chose, pourquoi est-ce que ce serait un frein à l'amour? Pourquoi est-ce que ça gênerait l'amour? C'est uniquement à cause de cette vieille rébellion qui sommeille au fond de nous que nous faisons cette opposition. Et puis alors j'ai dit déploiement de la loi. Je pense qu'il y a deux déploiements, des extensions en quelque sorte de la loi qui sont extrêmement intéressantes et pratiquement très importantes. Il y a l'extension de gauche ou de droite comme vous voudrez, l'extension de la sagesse. La sagesse, je représenterai par la balance, ou par le compas, la sagesse, elle est rapprochée de la loi. En fait, dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 6, Moïse dit au peuple que cette loi qu'il leur donne, cette Torah, sera leur sagesse aux yeux des peuples. Que les peuples diront, oh là là, qu'il est sage ce peuple, intelligent. Il y a donc là une association très étroite de l'idée de loi et de celle de sagesse. Et dans le livre des Proverbes, le mot Torah est employé assez souvent pour le contenu de la sagesse. Donc, les deux vont ensemble dans les textes. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est une associée que la sagesse par rapport à la loi? Parce qu'il me semble que la sagesse permet de comprendre ce qu'il en est de la loi, pas seulement obéir, mais comprendre, comprendre jusqu'à un certain point. C'est faire confiance que d'obéir sans comprendre, parfois, et le Seigneur nous le demande aussi souvent, mais il souhaite que nous allions plus loin. Il ne veut pas simplement des serviteurs et des servantes, il veut des fils et des filles, et il souhaite que nous comprenions quelque chose. Et ça, c'est la sagesse. La sagesse nous permet de répondre comme Jésus. Moi, je trouve que c'est un tel modèle que cette prière de jubilation de Jésus. Je te loue, Père. Je te loue de ce que tu as fait, de ce que tu agis comme tu agis, de ce que tu caches ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Tu les révèles aux simples qui reçoivent ton enseignement. La sagesse permet de comprendre et du coup d'appliquer. Parce que les commandements, même si on entre dans le détail, 613 ont été recensés par le judaïsme dans l'Ancien Testament, 613 commandements, même si on va dans le détail, il y a toujours des interstices entre les cas prévus. Les commandements, les 10 commandements par exemple, ce sont des balises. Ils nous donnent des repères, ici, 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 là, 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 mais entre ces points, comment faire? Les situations sont diverses, elles sont aussi elles ont aussi des points communs. Et la sagesse consiste à appliquer les grandes directives pour discerner comment l'amour de Dieu et du prochain va se concrétiser ici et là. La sagesse est un associé indispensable de la loi. C'est une sorte d'extension, c'est la loi déjà. Et elle est revêtue, bien sûr, de l'autorité de Dieu qui nous révèle sa volonté par la sagesse. Et puis l'autre extension, c'est celle des ordres de création. Dieu, dans sa création, a disposé les choses. C'est une sorte d'armature. Il y a des points fixes. Une sorte d'armature qui permet à la vie de se dérouler d'une manière ordonnée. Les ordres de création, comme on les appelle classiquement, c'est des réalités, mais des réalités qui sont pourvues d'une autorité de Dieu. Le Créateur a voulu cela, et la vie humaine ne peut se dérouler d'une manière saine et qui plaise à Dieu que si ces ordres sont respectés. Alors il y en a un certain nombre, et puis c'est varié, hein. Mais c'est une sorte d'armature pour la vie humaine que Dieu a pourvue, et on ne les bafoue qu'à ces risques et périls. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a le rapport entre les sexes. Dieu en a donné le rapport entre les sexes. C'est une disposition fondamentale que Dieu a imprimée à la vie humaine. Et c'est pour ça que l'homosexualité, par exemple, ou la bestialité sont réprouvées dans la Bible si fortement. Parce que c'est une des dispositions fondamentales que Dieu veut pour sa créature. Et les détruire et les déformer, c'est très nocif pour l'être humain. Et associé aux grandes lois, pas de confusion entre les sexes, une structure de fonctionnement bipolaire pour la vie humaine entre le masculin et le féminin, Dieu a institué le mariage pour le plein accomplissement du rapport entre l'homme et la femme. Ça fait partie des ordres de création avec une institution particulière. Une autre institution, c'est la famille. C'est pas la même, hein. C'est très intéressant de noter. Genèse 2 nous présente l'homme et la femme, précisément la création des sexes et le mariage, dont la formule est indiquée, mais pas question d'enfants, au chapitre 2 de la Genèse. Ça nous montre que c'est une autre structure, un autre ordre de création que celui de la famille, qui est très précieux, très important aussi, qui est bien sûr lié à l'autre, mais quand même, il est très important de respecter cette dualité de la disposition de Dieu en ce qui concerne l'homme et la femme, et en ce qui concerne parents et enfants. On peut représenter ça à la manière des arbres généalogiques, vous savez. Un ancêtre des... Il y a la cité, comme structure de la vie en commun des humains, avec l'exercice de la justice au nom de Dieu. Là, je me disais, j'allais faire le petit dessin de la ville de Paris, mais non, c'est pas la peine. Et puis, il y a encore le travail, comme ordre de création, comme on le voit très très bien dans la Genèse, avec le rôle de serviteur du sol, parce qu'il est appelé à servir le sol. Il est en même temps le vice-roi que Dieu institue intendant de ses œuvres, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Selon cet ordre de création, l'homme doit servir le sol, le mettre en valeur, comme un berger s'occupe de ses brebis. Voilà le modèle biblique, et ce modèle du travail est aussi un modèle très important dans les perspectives bibliques. Si vous voulez, là, aujourd'hui c'est plus très dangereux. Je mettrai la faucille et le marteau pour représenter cet ordre de création. Alors, je ne dis pas que j'ai fait une liste complète, mais je vous donne une idée de l'extension du champ de la loi divine, la loi divine qui nous apprend à aimer à l'image de Dieu et qui est elle-même une expression de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, il reste, puisque c'est à 30 qui est la limite officielle, il reste 5 minutes pour des questions. Monsieur Berger.
Pour ce qui est du deuxième commandement,
oui.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Oui.
Jésus-Christ l'a amélioré en disant aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous.
Voilà, merci bien, merci. Ce n'est pas une question, c'est une addition très, très bienvenue. Merci. Oui, M. Sidamon.
Toutes vos bonnes œuvres ne sont qu'un linge souillé.
Oui.
Or, il y a des hommes qui ne veulent rien savoir des chrétiens ou qui ne l'ont jamais connu. C'est des actes admirables. J'ai lu il y a quelques temps dans le Media Digest l'histoire d'un Pakistanais.
Donc la question, je pense que tout le monde a entendu, mais je répète quand même, la question porte sur les œuvres admirables que de non-chrétiens accomplissent, qui sont vraiment des choses que... nous saluons comme des marques de bonté, des expressions de bonté et d'héroïsme. Et Monsieur Sidamon évoque un Pakistanais non chrétien qui se comportait pratiquement comme Mère Teresa. Alors en quoi ces œuvres-là sont-elles souillées? Saint Augustin répondait, c'était assez dur comme réponse, mais il répondait que les vertus même des païens, ces œuvres qui à nos yeux sont remarquables, sont des vices splendides. C'était l'expression qu'il employait. Et pourquoi? Il expliquait en disant parce qu'il leur manque ce qui, aux yeux de Dieu, est l'essentiel, l'amour de Dieu. Ces œuvres sont très belles et je pense que nous devons être reconnaissants pour ces œuvres. Elles sont un effet de cette grâce commune de Dieu qui fait que le péché ne va pas jusqu'à sa plus grande laideur constamment et dans tous les sens, mais il leur manque quand même ce qui leur permettrait à la ce qui leur permettrait de donner un titre à l'agrément par Dieu, à la justification. Ce n'est pas dans l'amour de Dieu, du vrai Dieu. Il y a toujours quelque idole secrète, quelque affirmation de soi pour soi-même qui s'y cache. Je pense qu'il faut le supposer. C'est pas à nous de l'analyser, puis au fond c'est pas à nous de juger. Hein. C'est pas à nous de juger. Mais je pense que nous pouvons comprendre la parole biblique à ce propos un peu selon la ligne que je viens de dire. Oui, Monsieur Mazzeno.
Pas éclure dans les offres de création notre responsabilité face aux autres. Dépendance, puisque ça parle du deuxième commandement. Je ne sais pas quelle valeur.
La proposition, c'est d'inclure notre co-responsabilité les uns des autres, si je comprends bien, dans l'ensemble des ordres de création. Alors je suis d'accord, mais je pense que le thème est très général, donc il est plus général celui de la co-responsabilité que celui des ordres de création, qui sont plus spécifiques, telle ou telle forme pour la vie humaine. Je pense que cette co-responsabilité se rattache déjà tout simplement à l'amour du prochain, mais vous avez raison, le sujet des ordres de création n'y est pas étranger, le rapport homme-femme, le rapport familial, la cité, le travail aussi, sont des cadres qui correspondent à l'exercice de cette co-responsabilité. Et en particulier la cité, mais enfin les autres aussi, la famille aussi c'est très important, mais songeons juste, parce que sous certains évangéliques on peut être laissé un peu de côté, songeons à la responsabilité à l'égard de la cité. C'est aussi une expression de notre amour du prochain, que de nous intéresser aux élections qui vont avoir lieu. que de chercher quel est le programme qui sera le plus favorable au bien commun, à une meilleure santé morale du corps social. Donc, effectivement, il y a une solidarité qui est structurée selon les ordres de création. Je signale d'ailleurs un thème intéressant, je l'ai évoqué autrefois aussi dans d'autres leçons de l'Institut biblique, mais la dualité des relations courtes et des relations longues. C'est Ricoeur qui a le premier employé ce langage. Nous sommes dans notre rapport au prochain en relations courtes, nous le rencontrons face à face, mais aussi dans des relations longues, par l'influence que nous pouvons avoir sur le choix budgétaire. Est-ce que c'est le métro, est-ce que c'est le tram, est-ce que c'est les voitures qu'on va privilégier, vous voyez, ça joue pour la vie du prochain, beaucoup. Et là, nous influençons de manière indirecte, par des circuits longs, la vie des autres. Et c'est une relation longue au prochain, où l'amour du prochain joue aussi. Monsieur Patin, puis je pense que ça devrait être le dernier, hein, monsieur Michel Patin.
Oui, en Occident, il semble que on ait tendance à tirer une certaine gloire de l'influence judéo-chrétienne.
Alors, il s'agit de l'influence judéo-chrétienne. Et M. Patin suggère qu'en Occident, nous tendons à en tirer quelques gloires. Moi, je dirais, à l'heure actuelle, il me semble que c'est plutôt négativement qu'on en parle. Il y a eu un livre de Raymond qui dit que maintenant, s'il y a une minorité persécutée en France aujourd'hui, c'est la minorité chrétienne. Alors, lui dit même catholique, hein, mais c'est vrai que dans les médias... Donc, je pense qu'il y a aussi des tendances très adverses. Mais bon, c'est vrai que l'influence judéo-chrétienne a été louée souvent, même par des gens qui n'étaient pas des croyants eux-mêmes. Alors, quel commentaire donner ? Je crois qu'elle a joué. Je crois qu'effectivement, les pays où le christianisme a été établi, même sous des formes insuffisantes, que nous ne trouvons pas entièrement fidèles, que des pays où le christianisme a été établi pendant des siècles, en gros, en ont profité, et que les législations, les mœurs politiques y sont, en général, quand même plus favorables que dans d'autres régions du monde. Je crois quand même que les démocraties où on a le droit de dire ce qu'on veut, où il y a quand même des trains qui arrivent à l'heure, ce sont celles où cette influence chrétienne a joué sensiblement. Je crois qu'on peut le dire. Mais alors, il y a une petite phrase qui m'est utile, et une petite phrase latine d'autrefois, « Corruptio optimi pessima », la corruption du meilleur, c'est le pire. Et souvent, je cite une formule de Shakespeare qui l'illustre en quelque sorte. Les lys, quand ils se mettent à pourrir, ça sent beaucoup plus mauvais que les joncs, les roseaux. La corruption du meilleur, c'est pire. Et je pense qu'il y a aussi, du fait de cette influence judéo-chrétienne sans régénération du cœur dans notre histoire, qu'il y a aussi des atrocités, des énormités. Bon, je pense quand même qu'on doit dire que c'est dans un pays chrétien, le pays de la Réformation, que la solution finale a été mise en œuvre par les nazis, et que le corps social, il y a eu des héros pour s'opposer, mais le corps social, globalement, a laissé faire, a suivi, c'est... Ça, je ne peux l'interpréter qu'en disant « la corruption du meilleur, c'est le pire ». Voilà, donc, très brièvement, le commentaire que je ferai. Merci, donc, de votre attention. Et j'espère que le mois prochain, nous aurons une leçon aussi.